Voici le texte liturgique. Donc l'épître de ce jour est de Saint Paul aux Philippiens. Un plus beau texte de Saint Paul. Mes frères, ayez au cœur les sentiments de Christ Jésus. Lui qui était de condition divine, il n'a pas cru devoir se réclamer de son égalité avec Dieu, mais il s'est anéanti jusqu'à prendre la condition d'esclave, à devenir semblable aux hommes et avoir l'extérieur d'un homme. Il s'est humilié et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent aux cieux, sur terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. On se lève pour l'évangile, donc je vais vous lire l'évangile de la procession des rameaux. Suite du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus approchait de Jérusalem, arrivé en vue de Bethphagé, près du mont des Oliviers, et confia cette mission à deux de ses disciples. « Allez au bourg qui est en face de vous, vous y trouverez d'abord une ânesse attachée, son ânon auprès d'elle. Déliez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, répondez que le Seigneur en a besoin, mais qu'il les renverra sans retard. » Ainsi s'accomplissait la parole du prophète Zacharie, dite à la fille de Sion, « Voici que votre roi vient à vous, modeste, sa monture est une ânesse, un ânon, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent alors pour mettre à exécution les ordres de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, et couvrirent de leurs manteaux et firent monter Jésus. Une foule immense étendit ses vêtements sur le chemin, plusieurs coupaient des branches aux arbres pour enjoncher le parcours. Et toute cette foule, devant et derrière, criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Veuillez vous asseoir. D'abord, quelques annonces pour cette semaine. Donc, utilisez bien toutes les grâces de la semaine sainte. N'oubliez pas que Dieu donne plus de grâces pendant cette semaine sainte que pendant toute l'année liturgique. C'est vraiment la semaine de la miséricorde qui commence au pied de la croix avec le pardon des péchés. Donc attention pour les horaires de la semaine sainte. Donc j'ai mis, si vous n'avez pas déjà eu un papier dans la petite corbeille à côté, avec les horaires de cette semaine. Donc lundi saint, 3 avril, messe à 11h. Mardi, messe à 11h. Mercredi saint, messe basse à 11h. Jeudi saint, c'est le jour de l'institution de la Sainte Eucharistie. Messe vespérale à 17h30, qui sera suivie de l'adoration du très saint sacrement au reposoir jusqu'à minuit. Vendredi saint, chemin de croix solennel à 17h, fonction liturgique du vendredi saint avec passion chantée à 18h. Samedi saint, la veillée pascale à 22h30, suivie de la messe de minuit chantée. Et dimanche de Pâques, messe chantée à 10h. Attention donc à ce qu'on appelle le triduum sacré, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, jour de Pâques. Donc ce sont les jours peut-être les plus importants de l'année, strictement parlant. À cause de la vicissitude des temps, ce ne sont plus des jours d'obligation en France. Cependant, pour ceux qui habitent pas trop loin, au moins essayez de venir assister à ces offices magnifiques du jeudi saint, du vendredi saint, de la messe du samedi saint. Donc ceux qui assistent à la messe de minuit, donc veillez pascal samedi soir à 22h30 avec la messe de minuit, c'est déjà la messe de Pâques. Donc, vous n'êtes pas obligé de revenir à la messe du jour. Si vous assistez aux deux messes, messe de minuit et messe chantée à 10h le dimanche de Pâques, attention, vous pouvez communier qu'une seule fois, et pas deux. Alors j'ai dû changer un peu les horaires pour essayer d'adapter au maximum. En principe, le chemin de croix solennel devrait être à 3h de l'après-midi. Et la fonction liturgique du vendredi saint, ce qu'on appelle la messe des présanctifiés, plus tard vers 18-19h. Évidemment, j'ai raccourci les deux choses, j'ai rapproché les deux choses pour que ceux qui viennent ne soient pas obligés de venir deux fois. Donc, le vendredi saint, il y aura le chemin de croix solennel à 17h et la passion et l'office du vendredi saint à 18h juste après. Alors encore une fois, on fait ce qu'on peut en matière liturgie. En principe, j'espère que nous pourrons être rapidement dans la nouvelle chapelle. Et là, nous aurons plus de place, on pourra organiser. Il va falloir aussi, ça, il faut un petit miracle du bon Dieu, avoir une chorale. En principe, les offices du vendredi saint, les offices de la semaine sainte sont chantés. Alors, d'autres annonces pour les retraites. Alors actuellement, j'ai encore une place pour la première retraite, la retraite du 24 avril au 29 avril. Donc j'espère pouvoir remplir complètement cette première retraite. Après, j'ai encore une place pour la retraite de juin, une place pour la deuxième première retraite pardon, de septembre, du 4 au 9 septembre, et deux places pour la retraite d'octobre, du 2 au 7 octobre. Samedi prochain, pour tous ceux, les hommes qui le peuvent, ce sera une journée de travail manuel, physique, pour tous ceux qui le peuvent, qui peuvent venir nous aider, afin d'éviter des frais trop importants pour la nouvelle chapelle, donc qui sera à Tanus. Eh bien, nous allons faire une partie des travaux nous-mêmes, hein, pour éviter justement d'avoir trop à payer. Donc, il y aura une première journée de travail samedi. Donc, tous les hommes qui peuvent venir donner un petit coup de main, venez. Si vous ne savez pas où c'est, demandez-moi après la messe, je vous renseignerai là-dessus. Donc, jour de travail ce samedi 8 avril. Aussi, le jour de Pâques, après la messe du jour, donc messe du jour à 10 h, qui sera la messe chantée, après nous aurons un repas de paroisse qui cette fois-ci sera organisé dans la salle des fêtes de Padiens, c'est-à-dire juste sous la mairie, à 2 minutes d'ici en voiture. Hein, bien sûr, vous êtes tous invités. Hein, n'oubliez pas ce repas de communauté en quelque sorte pour bien créer l'esprit de paroisse qui est très important le jour de Pâques après la messe de 10 h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, il y a en cette magnifique fête du dimanche des rameaux un grand, grand mystère. Il faut insister sur ce mystère. C'est ce qu'on appelle l'avertissement de la passion, le grand avertissement de la passion. J'en parle chaque année parce qu'il faut vraiment mettre ça dans nos têtes. La première partie de la cérémonie, c'est la bénédiction des rameaux. Et pour bien exprimer que cette bénédiction des rameaux est un jour de fête, Pie XII, avec raison, a changé la couleur liturgique. Il a mis en rouge. Pour bien montrer justement que c'est le peuple de Jérusalem qui vient tout joyeux accueillir notre Seigneur. Notre Seigneur arrive, il monte un petit anneau, et tout le peuple de Jérusalem est à la porte de la ville pour acclamer notre Seigneur. Ils font une grande procession en son honneur, ils frappent des mains, ils chantent, ils dansent devant notre Seigneur. Ils vont même jusqu'à couper des branches, des palmes et mettre ça sur le chemin de notre Seigneur pour faire une voie royale. Ils vont même mettre leurs vêtements, pardon, sur le sol pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse avancer dans toute sa gloire. Et ils chantent, Hosanna au fils de David. Gloire à celui qui vient au nom du Seigneur. C'est un jour de grande joie. Et après la procession des rameaux, Pie XII a demandé à ce qu'on rechange de couleur liturgique, qu'on prenne le violet, couleur de pénitence. Pourquoi? Et c'est ça le grand avertissement de la passion. C'est que les mêmes personnes qui acclament notre Seigneur Jésus-Christ avec grande joie au moment où il rentre dans la ville de Jérusalem le jour des rameaux, 5 jours plus tard, ou 6 jours plus tard, le vendredi saint, ces mêmes personnes seront devant le palais de Ponce Pilate, en train de lui hurler qu'il soit crucifié. C'est là, il faut se rappeler la parole de notre Seigneur que j'ai déjà commentée dimanche dernier. Hein? L'un de vous me trahira. Et notre Seigneur Jésus-Christ aurait pu dire, tous, vous allez me trahir. Et rappelez-vous cette deuxième phrase que j'ai déjà commentée, donc je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Alors tous s'enfuirent. Et donc cette couleur violette que le prêtre prend après la procession des rameaux rappelle justement que c'est notre histoire. Ça, c'est une tendance qui est très dommageable à mon avis. Quand on parle de la passion, la plupart des traditionalistes disent, oui, la passion, c'est les Juifs. Bon, c'est vrai que les Juifs ont demandé la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la passion, c'est pas que les Juifs, hein. C'est nous aussi. Et je m'excuse d'insister sur ce point, mais qui est absolument fondamental. De quoi souffre plus notre Seigneur? Les péchés des juifs ou les péchés des catholiques? De quoi souffre plus notre Seigneur Jésus-Christ? Les péchés des catholiques modernistes qui ont tout envoyé promener ou des péchés des traditionalistes qui connaissent beaucoup mieux la chose? Et donc, ce cri de guerre du peuple juif, ou une partie du peuple juif devant le tombeau de le balcon de Ponce Pilate, qu'il soit crucifié, c'est nous qui le crions, mes bien chers frères. C'est pas simplement le péché des juifs, c'est aussi notre péché. Rappelez-vous ce que disait le saint curé d'Ars. Chaque fois que je commets une faute grave, je recrucifie notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, sur l'autel de mon âme. Donc il faut penser à ça. À chaque fois que je commets une faute grave, je renouvelle le cri de guerre, qu'il soit crucifié. De même que notre Seigneur Jésus-Christ a dû bien plus souffrir de l'apostasie de Judas, de l'apostasie aussi de Saint-Pierre et de tous les apôtres. Au soir du Jeudi Saint, au Jardin des Oliviers, de la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ doit plus souffrir de nos péchés, encore une fois, que du péché de ceux qui connaissent pas Dieu. Et ça, encore une fois, c'est des choses qu'on entend très souvent. Monsieur l'abbé, c'est épouvantable. Il y a des horreurs qui se passent aujourd'hui, oui. Et des horreurs qui se passent aussi dans mon cœur. Faites pas oublier. Et nos péchés à nous, on y pense? Alors on parle beaucoup des péchés des gouvernements, des péchés des autres, et on oublie un peu les nôtres. Eh bien, cette fête du dimanche des Rameaux, justement, doit nous rappeler que notre Seigneur Jésus-Christ meurt pour chacun d'entre nous. Encore une fois, il souffre plus de ceux qu'il a appelés ses amis. On le voit dans le texte de la Passion que je viens de chanter, au moment où Judas s'approche pour embrasser notre Seigneur et donner le signe de la trahison, qu'est-ce que dit l'Évangile? Notre Seigneur Jésus-Christ va appeler celui qui vient le trahir, un de ses apôtres, mon ami, mon ami. Et notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, souffre plus des péchés de ses amis. Nous sommes des amis de notre Seigneur, par le baptême d'abord. Et nous sommes des amis spéciaux de notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous avons reçu des grâces particulières pour conserver la foi, pour comprendre un peu, commencer à comprendre un peu ce qui se passe aujourd'hui. À cause justement de ces grâces toutes particulières que nous avons reçues, le gaspillage de grâces plus importantes est plus grave que le gaspillage de grâces moins importantes. Donc pensons, mes bien chers frères, pensons un petit peu à ces choses-là. Il y a un détail chez le Père de l'Église qui est très intéressant. Le Père de l'Église explique que le monde moderne de l'époque des Pères de l'Église, qui correspond au monde moderne d'aujourd'hui, est désigné par la Lune. La Lune représente le monde moderne. Pourquoi? Bien parce que la Lune change d'apparence dans le ciel. Au début du mois lunaire, il n'y a pas de lune dans le ciel. Puis un quart de lune, une demi-lune, trois quarts de lune et pleine lune. Et le Père de l'Église explique cette lune qui change, qui disparaît complètement et ensuite qui va de nouveau réapparaître avant de décroître de nouveau. Eh bien, cette lune qui change, c'est le symbole des catholiques qui oublient qu'ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui oublient notre Seigneur Jésus-Christ, qui trahissent notre Seigneur Jésus-Christ par le péché. Et nous aussi, nous sommes comme la lune. On prétend être plein de gloire, plein de beauté. Et souvent, on oublie notre Seigneur Jésus-Christ et on l'abandonne. Alors, il faut écouter un autre avertissement que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne. Cette fois-ci, il va le donner plus spécialement aux apôtres. Les apôtres dorment, alors que notre Seigneur Jésus-Christ souffre déjà le début de la passion, pendant l'agonie. Et trois fois, il va dire à ses apôtres, veillez, priez, afin de ne pas tomber en tentation parce que l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Il va répéter trois fois la même chose. Veillez, priez, prière, pénitence. Pour éviter de faire comme les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de la fête des Rameaux, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'humilité, la confiance en Dieu, et réduire le degré de confiance que nous avons en nous-mêmes. Il faut rajouter autre chose, prière, pénitence, veiller, prier. Parce que l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et si notre Seigneur fait allusion à ce combat constant dans notre âme, comme le dit Saint Paul, j'ai en mon âme un désir de faire des choses que je ne dois pas faire, je fais ce que je ne dois pas faire, et je ne fais pas ce que je devrais faire. Et se rappeler ça, nous aussi, nous ne devons pas jamais oublier que nous devons prier, faire pénitence. Et si nous ne prions pas, mes bien chers frères, si nous ne faisons pas pénitence, eh bien, nous allons faire comme les apôtres. Nous aussi, nous allons nous sauver. La pénitence, ce n'est pas quelque chose de facultatif, mes bien chers frères. La pénitence est obligatoire. Si vous ne faites pas pénitence, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ, vous périrez tous. Notre Seigneur ne dit pas, si vous ne faites pas pénitence, vous aurez du mal à aller au ciel. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Vous voyez, ces considérations doivent nous aider à comprendre encore une fois un point capital, la patience, c'est pour aujourd'hui, mes bien chers frères. Ce n'est pas simplement, j'ai expliqué déjà ces choses-là souvent, se remémorer, se rappeler ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi il y a 2000 ans. Non, la passion est renouvelée aujourd'hui. La messe, c'est la passion. Le péché mortel, c'est la passion. Et je peux vous donner un autre exemple que j'utilise très souvent quand je prêche les exercices Saint-Ignace. Je vais vous l'expliquer pour ceux qui ne le connaissent pas. Encore un exemple qu'on peut donner, c'est peut-être le plus fort. De l'actualisation de la passion. La passion, encore une fois, c'est quelque chose pour aujourd'hui. Regardez Pilate. Pilate, ce n'est pas un juif. C'est un païen. C'est un romain. Il méprise les juifs. Il est furieux parce qu'il a été mis à ce poste, subalterne de gouverneur sur place. Mais les juifs se révoltent tout le temps. Il est toujours en train de se battre contre eux. Et les romains qui on avait assez de voir les abus du Sanhédrin, des prêtres juifs, leur avaient supprimé le pouvoir de condamner à mort. Ce qu'on appelle le jus gladi, le droit du glaive. Ce qui fait que lorsque le Sanhédrin juif, l'autorité politique juive, voulait condamner quelqu'un à mort, il fallait passer par l'autorité romaine. Et l'autorité romaine devait valider les choses. Et donc les membres du Sanhédrin viennent voir Pilate pour demander le pouvoir de mettre à mort notre Seigneur Jésus-Christ. Et comprenez bien que Pilate sait très bien que notre Seigneur est innocent. Même sa femme le lui a dit. N'oublions pas que sa femme est une grande sainte, mes bien chers frères. Elle est canonisée par l'Église, attention. La femme de Pilate, c'est sainte Claudia Procula, canonisée par l'Église. Pas Pilate. Pilate, c'est très mal fini pour lui. Il a fini par se suicider à Vienne, dans le Dauphiné, après avoir été mis là en exil. Sa femme vient le voir pour lui dire, n'ai rien à faire avec ce juste. Et Pilate sait très bien que c'est injuste. Il ne sait pas que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, ça ne s'en occupe pas, ça n'intéresse pas, c'est l'histoire des Juifs. Mais il sait que notre Seigneur est innocent. Il le sait parce que ses envoyés lui ont expliqué, notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais fait rien de mal, il guérit les malades, il a fait ressusciter les morts, il a fait des tas de miracles extraordinaires, on n'a rien à lui reprocher. Et Pilate va prononcer cette parole épouvantable. Il savait qu'il y avait dans les geôles romaines un bandit, Barabbas, un assassin. Et Pilate savait très bien que cet assassin, lui, était coupable, parce qu'il savait qu'il avait effectivement assassiné quelqu'un dans une manifestation. Donc il sait que Barabbas est coupable, il sait que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas coupable. Encore une fois, il ne sait rien sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il sait que l'un est coupable et l'autre ne l'est pas. Bien malgré cela, il refuse d'utiliser son intelligence, dont l'objet formel est le vrai, et dit aux Juifs, lequel des deux voulez-vous que je vous délivre? Notre Seigneur ou Barabbas? Il rend toute connaissance de cause, sachant où est le bien, sachant où est le mal, sachant où est le vrai, sachant où est le faux, Pilate donne les mêmes droits au vrai et au faux. C'est le péché le plus grave qu'on puisse commettre, mes bien chers frères. Et ce péché par lequel on donne les mêmes droits au vrai et au faux, c'est le péché du monde moderne d'aujourd'hui, de 2023. Ce péché a un nom, on l'appelle le libéralisme. Le libéralisme, c'est ça. C'est le péché par lequel je donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. Je vous conseille tous, si vous n'avez pas encore lu, de lire le magnifique ouvrage très classique du début du XXe du XXe siècle qui s'appelle Libéralisme. Le libéralisme est un péché, de Don Félix Sardà et Salvani, un prêtre catalan. Et dans ce livre, ce prêtre explique que le péché de libéralisme est le plus grave de tous les péchés. Je sais où est le vrai et je refuse de m'aligner sur le vrai parce que je veux donner les mêmes droits au vrai et au faux. C'est en fait un péché contre le Saint-Esprit. C'est le péché par lequel je refuse la vérité connue comme telle, dit le catéchisme. La vérité connue comme telle. Pilate sait que Jésus n'est pas coupable, ça c'est le vrai. Pilate sait que Barabbas est coupable et il donne les mêmes droits au vrai et au faux. Refus de la vérité connue comme telle. C'est ça le péché du libéralisme. Ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe dans notre pauvre pays de France. C'est exactement ça. Et à ce premier péché se rajoute un deuxième péché, aussi un péché d'aujourd'hui. Pas simplement du temps des Juifs. Aujourd'hui, les traditions demeurent, croyez-moi. Qu'est-ce que va faire Pilate? Pilate a devant lui une foule énorme. Tous les gens de Jérusalem sont là. Ils sont en train de hurler qu'il soit crucifié. Alors Pilate essaie simplement d'avoir avec lui une partie de la population. Il se dit, si j'arrive à avoir au moins 50% des gens qui commencent à être pour notre Seigneur Jésus-Christ, j'arriverai à me tirer d'affaire et à éviter que notre Seigneur soit envoyé pour être crucifié. Il va même faire flageller notre Seigneur. Et lorsque notre Seigneur est couvert du sang de la flagellation, il le ramène au balcon, le couvre de la robe des fous et dit, voici l'homme. Il essaye d'obtenir plus de 50% des voix pour notre Seigneur. Et en face de lui, les membres du Sanhédrin, qu'est-ce qu'ils font jeudi soir et toute la nuit du vendredi? Ils vont envoyer des soldats dans les rues de Jérusalem. Ils vont frapper à toutes les portes et donner de l'argent à tous les gens de Jérusalem en disant, voilà, demain il y a une élection. Vous allez devoir voter pour notre Seigneur ou pour Barabbas. Alors attention, bien voter, hein? Et pour être sûr que vous votez bien, voilà une petite pièce d'or, vous la gardez en souvenir, mais votez bien demain, hein? Demain, il faut voter pour Barabbas. Et lorsque Pilate, essayant une fois de plus de sauver notre Seigneur, mais avec des faux principes, répète la même phrase, lequel des deux voulez-vous que je vous délivre? À ce moment-là, la foule se met à hurler, Barabbas. Et ça, c'est un deuxième crime intellectuel, mes bien chers frères. Il faut comprendre ces choses-là. Parce que ça, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Le premier crime par lequel Pilate donne les mêmes droits aux vrais et aux faux, on l'appelle le libéralisme. Le deuxième crime par lequel Pilate soumet le vrai au nombre, c'est encore pire. Ça aussi, ça a un nom. La démocratie. Les gens vont dire, ah, monsieur l'abbé, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, tu parles. La démocratie n'a jamais été pouvoir du peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du nombre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'accepte le principe démocratique, la vérité n'existe pas, c'est le nombre qui va décider où est la vérité. C'est le nombre qui va décider où est le vrai. Et ça, c'est un deuxième péché de l'intelligence qui est une conséquence directe du premier. Parce que je suis un libéral et que je donne les mêmes droits aux vrais et aux faux, je serai obligé un jour de suivre le nombre. Et si le nombre décide que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, eh bien tant pis, notre Seigneur Jésus-Christ sera envoyé à la croix. Et si le nombre décide qu'on peut assassiner 250 000 enfants dans le sein de leur mère et les couper en morceaux par le crime d'avortement, eh bien, on fera bien obligé d'accepter, bien qu'au fond de mon heure, au fond de mon cœur, je pleurerai un peu pour ces pauvres enfants. Mais cependant, qu'est-ce que vous voulez? C'est le nombre. Comme si le nombre faisait la vérité, mes bien chers frères. Et ça aussi, c'est l'actualisation de la passion. C'est exactement tout dans l'évangile. Et si vous ajoutez au péché de libéralisme, par lequel je donne les mêmes droits aux vrais et aux faux, le péché de démocratie, par lequel je soumets le vrai au nombre, c'est mathématique. Les deux mis ensemble, ça aboutit toujours, toujours, toujours au même résultat, l'apostasie. Regardez ce qui se passe. On le voit très bien aujourd'hui, l'apostasie généralisée, non seulement au niveau politique, même au niveau religieux, hélas. Regardez ce qui se passe dans l'Église moderne. Et il faut avoir le courage d'ouvrir nos yeux, mes bien chers frères. Ça, ce n'est pas simplement le péché des Juifs, c'est nos péchés à nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Se décourager? Non. Ne pas se décourager. mais avoir le courage de, au contraire, de se mettre à genoux. Se mettre à genoux comme Saint-Pierre. Lorsque Saint-Pierre a trahi, on vient de le lire dans l'épître, dans la passion d'aujourd'hui, passion de Saint-Matthieu, lorsque Saint-Pierre a trahi trois fois notre Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, le coq chante, il se rappelle ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras trahi. Et notre Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, quitte la maison de palais de d'Anne pour aller au palais de Caïphe, puis voir Hérode, pour voir Hérode et Pilate. Il sort d'un palais pour passer dans l'autre palais et il voit Saint-Pierre. Et Saint-Pierre voit ce visage de notre Seigneur Jésus-Christ, douloureux. Douloureux à cause de son péché, du péché de Saint-Pierre, mais en même temps plein de miséricorde. Et l'évangile dit, Saint-Pierre sortit et pleura amèrement. Et alors Saint-Pierre sortait déjà de la cour en pleurant à chaudes larmes ce qu'il venait de faire, pour être sûr que notre Seigneur Jésus-Christ déjà donnait l'absolution. Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si, je vous l'ai souvent déjà dit ça, si Judas avait fait la même chose, on aurait un Saint-Judas aujourd'hui. Alors mes bien chers frères, profitons de cette semaine sainte pour nous aussi faire la même chose. Nous aussi savoir dire au bon Dieu, pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché. Et le bon Dieu nous pardonnera. Alors passons bien sûr par la très sainte Vierge Marie. N'oublions pas qu'elle est la seule des amis de notre Seigneur, la seule qui n'a pas trahi. La seule qui conservait la foi. Même cette Marie-Madeleine avait conservé un amour très grand pour notre Seigneur, comme tous les apôtres d'ailleurs. Mais ils avaient tous oublié qu'il était Dieu. Ils avaient tous oublié qu'il avait annoncé que le troisième jour il ressusciterait d'entre les morts, ça ils l'ont oublié. Alors soyons près de la très sainte Vierge Marie. C'est ce qu'a fait Saint Jean. Saint Jean lui aussi il avait perdu la foi. Lui aussi, il ne croyait plus à la résurrection. Mais sa grâce spéciale de Saint Jean, c'est d'être resté près de notre très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie va le prendre par les bras, par la main, et elle va l'amener au pied de la croix. Et c'est Saint Jean qui vient d'être ordonné prêtre, qui vient d'être consacré évêque la veille, qui va entendre cette phrase magnifique. Notre Seigneur Jésus-Christ qui confie son Église à sa mère. Femme, voici votre fils. Fils, voici votre mère. Et devenant la mère de l'Église, la très sainte Vierge Marie devient notre mère à nous, mes bien chers frères. N'oublions pas que nous avons au pied de la croix celle qui est notre mère, la mère de l'Église catholique, la mère de toutes nos misères. En demandant à la très sainte Vierge Marie de savoir rester au pied de la croix, pas nous enfuir comme les apôtres, rester au pied de la croix, même si c'est un peu contraint et forcé, parce que la très sainte Vierge Marie nous tient par la main et nous dit, mon petit, tu ne te sauves pas et tu restes avec moi. Il vaut mieux rester là, même si c'est un peu contraint et forcé. Rappelez-vous, Simon, qui est obligé de porter sa croix, la croix de notre Seigneur, parce que notre Seigneur est en train de défaillir pendant le chemin de croix, on verra ça vendredi, pendant le chemin de croix, il est en train de défaillir, alors les soldats romains vont demander à Simon de venir porter la croix. Et Simon a dû porter la croix contraint et forcé au début. Puis petit à petit, la grâce du bon Dieu a travaillé, il a compris qu'il aidait Dieu à porter sa croix dans son humanité. Et il s'est converti. Et pour le remercier, le bon Dieu a appelé deux de ses fils qui sont devenus prêtres et martyrs. Alors, passons par la très sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, pour ne jamais, jamais oublier ces choses. Et nous aussi, faire notre chemin de croix cette semaine pour arriver un jour tous ensemble à la fête de Pâques et nous retrouver un jour tous au paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.